virus, comme il accélère, eh bien, nous aussi, nous devons collectivement accélérer sur tous les gestes, les mesures qui permettent de se protéger individuellement et collectivement. Omicron, il est fulgurant. Eh bien, nous, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. On agit. C'est avec le télétravail. C'est avec un certain nombre de précautions qui sont prises dans les grands rassemblements.
Accélération, retour en arrière, à entendre le ministre chargé du tourisme et depuis peu des PME, Jean-Baptiste Lemoyne sur France Inter mercredi dernier. C'est reparti pour un tour, un film qui n'en finit pas, avait reconnu le Premier ministre Jean Castex en début de semaine. Le président nous a annoncé hier soir lors de ses vœux de prochaines semaines difficiles, mais aussi de vraies raisons d'espérer grâce au vaccin. Espoir d'éviter l'engorgement dans les hôpitaux, chroniquement sous-dotés depuis 20 ans, malgré les milliards du Ségur de la Santé débloqués. Bloqué en 2020, ce sera un enjeu de la présidentielle qui vient. En attendant, dès lundi, retour au travail pour beaucoup en télétravail, jauge, restrictions, voire fermeture prolongée dans les activités de loisirs. Pour le moment, les compteurs économiques ne s'affolent pas. La Banque de France a tout juste revu à la baisse de 0,1 point à 3,6% sa prévision de croissance pour 2022. La Bourse de Paris a clôturé hier midi une année de hausse record de près de 30%. Les marchés anticipent déjà une forte reprise passée la cinquième vague. Encore faudra-t-il que le choc Omicron ne soit ni trop long ni trop brutal. Si besoin, le quoi qu'il en coûte est encore tout chaud. Quelques secteurs, comme les discothèques fermées, recommencent d'ailleurs à en bénéficier. Il reste quelques milliards d'aides provisionnées l'an dernier qui n'ont pas été utilisées. Suffisant, espère-t-on à Bercy, pour ne pas avoir engagé de nouvelles dépenses dans les prochains mois.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue à bord du magazine Echo en ce 1er janvier 2022. Merci à Céline Hila qui le réalise, à Valentin Pérez et à Manon Rax qui l'ont préparé. Mathias Alléon est avec nous ce matin en régie et Charles Westrelin au mixage. Nous allons évidemment continuer à nous projeter sur l'année économique qui commence tout juste. Notre invité sera Xavier Jaravel, prix du meilleur jeune économiste 2021. Une nouvelle voix qui mérite d'être entendue, notamment sur les sujets en lien avec l'innovation et les filières économiques de demain. Ne manquez pas non plus le reportage d'Anna Elverzo sur l'intelligence artificielle. Nous sommes partis à la rencontre de petits robots. Tout cela, ce sera dans une vingtaine de minutes. Depuis quelques heures, la France assure la présidence tournante de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Parmi les chantiers au chapitre économique et social, la discipline budgétaire, l'harmonisation des salaires minimums ou encore le paquet climat avec la taxe carbone aux frontières, on en débattra avec Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express, et Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives économiques. Nous ferons un crochet par la Russie. Vladimir Poutine s'est entretenu avant-hier avec Joe Biden. L'arme du gaz n'est jamais loin. Nous tenterons de décrypter les intentions du Kremlin avec notre correspondant sur place, Jean-Didier Revoin. Notre facture énergétique en dépend. Enfin, ma vie au boulot, la chronique de Sandrine Foulon. Question d'Alain ce matin, un auditeur très fidèle d'On n'arrête pas l'écho sur les différences de droit entre vacataires et contractuels. Rendez-vous à 10h05. Vous avez le programme. C'est parti pour le débat.
Je pense qu'il est dans l'intérêt de tous de réexaminer dans quel cadre la dépense publique doit être maîtrisée.
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.
Parce que ça, c'est un impératif et ça sera une des conditions des remboursements de dettes dans des conditions soutenables pour chacun des pays. Mais cette révision-là, elle doit intervenir.
Je suis pour une taxe carbone aux frontières.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.
Et là aussi, à la majorité qualifiée. Si on reste à la règle de l'unanimité sur la fiscalité, ça va être très compliqué de mettre en place une taxe carbone aux frontières parce que les uns auront peur des Chinois, les autres auront peur des sanctions américaines et au bout du compte, il n'y aura rien du tout.
On est d'accord sur le mécanisme, mais il faut protéger aussi notre industrie à qui on demande de faire des efforts, des importations extérieures.
Damien Carême, député européen du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne.
On a déjà un système d'échange carbone au niveau européen. Et ce qu'on souhaitait, nous, c'est la disparition de ces droits à polluer en fonction de la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Une occasion supplémentaire de parler de négociations autour d'un salaire minimum amélioré à l'échelle européenne.
Dans les couloirs de Bruxelles, c'est un vieux serpent de mer. Comment harmoniser les salaires minimums en Europe ? La mission paraît impossible, tant les disparités sont énormes.
Certains pays jouent de cette compétitivité d'avoir des salaires plus bas.
Éric Maurice, responsable de la Fondation Schuman à Bruxelles.
Et donc c'est très difficile de demander à ces entreprises d'augmenter le salaire d'un seul coup de 30, 40, 50 ou même plus pour cent pour rattraper le reste de l'Union européenne.
Vous ne pouvez pas décréter demain ou même dans 3 ans, les salaires minimums en Europe sont partout les mêmes.
Nicolas Schmitt, commissaire européen responsable de l'emploi et des droits sociaux.
Ça, ce n'est économiquement, mais même socialement impossible. Ce qu'il faut, c'est de la convergence vers le haut.
En ce 1er janvier, la France prend donc la présidence tournante de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Au programme, plusieurs grands sujets économiques et sociaux sur lesquels Paris espère avancer. À commencer par la révision des règles de discipline budgétaire qui ont de toute façon volé en éclats sous les coups de la crise sanitaire. Cela va-t-il de soi, selon vous? Il faut revoir ce pacte de stabilité. Vincent Grimaud, peut-être pour commencer?
Oui, bah évidemment, vous l'avez dit, la crise sanitaire l'a fait voler en éclats, mais au-delà de ça, ce pacte de stabilité, alors on rappelle, hein, c'est l'instrument dont se sont dotés les pays de la zone euro pour s'assurer qu'aucun pays ne s'endette trop.
Ça remonte à quand à peu près?
Ça remonte à 1997, sous la pression allemande, qui voulait s'assurer que les supposés cigales n'allaient pas trop flamber pendant l'été. Et alors, la règle, c'est, il y a deux règles essentielles, c'est le déficit public inférieur à 3% du PIB et la dette publique inférieure à 60% du PIB.
Donc 3% le déficit annuel, 60% la dette cumulée.
Exactement. Et donc ça, effectivement, ça n'a pas tenu avec le Covid, mais ça ne tenait pas avant. Ça, il faut bien le redire. Il y a eu la crise des dettes publiques au début des années 2010, on s'en souvient, avec la Grèce, l'Irlande, le Portugal. Mais au-delà de ça, même en rythme de croisière, ce mécanisme était inopérant. L'Allemagne, par exemple, a été au-dessus de 60% de dette sur PIB de 2003 à 2018, donc 15 ans. Même le meilleur élève, un des meilleurs élèves, n'était pas dans les clous. Donc oui, il faut le revoir. Il faut revoir ce pacte. Il y a plein de raisons. D'abord, la dette publique est très élevée dans la plupart des pays de la zone euro, donc on peut plus respecter les 60, c'est impossible. Par ailleurs, les taux d'intérêt se sont effondrés, donc on s'endette à pas cher. Et puis, les États membres se sont endettés en commun pour la première fois dans le cadre du plan de relance. Donc on voit que tout est en train de bouger, et ce serait très bizarre de rester sur des critères qui datent de 1997.
Donc il y a un historique, il y a un consensus sur la question. Béatrice Mathieu, vous êtes d'accord?
Alors, il y a un consensus parmi les économistes qu'effectivement, il faut revoir ces règles. Alors, il y avait effectivement, vous avez raison, ces chiffres un peu magiques qui ont été un peu qui ont corseté en fait la vie de la zone euro pendant 20 ans, c'est 3% et le chiffre des 60.
Pourquoi des chiffres aussi magiques?
Bah parce que en fait tous les ans on nous disait c'était l'alpha et l'oméga des politiques économiques de chaque pays où on présentait le budget, on disait alors si on était un peu au-dessus on est ah oui mais dans 2 ans on sera en dessous des 3% on voit bien que c'était toutes les constructions des politiques économiques étaient autour de ces de ces deux chiffres. Faut voir aussi qu'au fil des décennies, au fil des années, les règles de discipline budgétaire se sont considérablement compliquées. Il n'y avait pas simplement que le 3 et le 60%. Il y a eu, on ne va pas rentrer dans la tambouille bruxelloise, mais c'était le six-pack, le two-pack qui durcissait encore plus les règles. Alors tout le monde est d'accord pour dire, personne n'y comprend plus rien. Même à Bruxelles, on vous dit pour comprendre la discipline budgétaire européenne, c'est 400 pages, donc on n'y comprend plus rien. Deuxième chose, effectivement, pendant des années, certains pays n'ont pas respecté. Troisième chose, faut voir quand même qu'il faut des règles. Donc là où il y a un consensus, c'est-à-dire effectivement celles-là sont sans doute obsolètes. Et puis, si on voulait les respecter, notamment le critère d'endettement, le fameux 60%, bah, ça condamne certains pays, dont la France était liée à une espèce d'austérité éternelle. Là où il n'y a pas consensus, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors,
c'est le vrai sujet.
On parlait des cigales et des fourmis, justement. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus là-dedans? On imagine que la France et l'Allemagne, par exemple, ont des positions assez éloignées, a priori. Qu'en est-il de ces débats à l'intérieur de l'Europe, Vincent?
On ne connaît pas encore très bien la position allemande très précise, mais effectivement, il va y avoir très, très certainement une opposition là-dessus. Après, le vent a un peu tourné, parce qu'on l'a entendu, Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a dit, il faut changer les choses parce que la BCE, elle a déjà fait beaucoup, mais ses outils ne lui permettent pas de stimuler davantage la demande, sauf à faire des politiques pas du tout conventionnelles. La Commission européenne, c'est elle qui avait lancé déjà, avant même le Covid, une réflexion sur la modification des règles. Et puis, il y a le couple franco-italien qui a fait une tribune dans le Financial Times. Donc, le couple franco-italien, c'est Emmanuel Macron, mais c'est surtout Mario Draghi, ancien président de la BCE, ultra respecté en Europe. Donc, il y a quand même du poids politique très fort pour faire changer les choses.
Les planètes s'alignent, Béatrice?
Je serais moins optimiste parce que je pense que quand on va rentrer dans le vrai de la discussion, on va voir qu'il y a effectivement des désaccords. Parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors il y en a certains. Alors le couple franco-allemand, ce qu'il dit, franco-italien pardon, dit il faut sortir en fait des calculs de déficit, tous les investissements absolument nécessaires à faire sur la transition climatique, sur les infrastructures numériques, etc. Ils disent sortons du calcul. Il y a d'autres là, économistes qui disent peut-être qu'on peut avoir des plafonds de dette différenciés par pays. C'est ce que Gentiloni, le commissaire aux affaires éco, a sorti cette semaine. D'autres économistes disent au contraire, il faut avoir regardé pays par pays la soutenabilité de la dette pays par pays et finalement avoir des objectifs peut-être propre à chaque pays, faire une sorte de sur-mesure par pays. Et donc on voit bien que quand on a dit le vent est en train de tourner et qu'il y a sans doute des discussions sur on revoit les règles, pour le moment, personne n'est d'accord sur quelles règles on revoit, même s'il faut absolument être certain qu'il faut des règles pour avoir une zone euro qui fonctionne bien.
Alors il y a ce volet macroéconomique, budgétaire, mais il y a aussi un agenda environnemental et social sur lequel la France veut avancer. En particulier ce qu'on appelle le paquet climat, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Vincent, quel est l'enjeu? Un accord est-il là aussi envisageable?
L'enjeu, c'est de taxer les importations pour leur faire payer le vrai coût de la pollution. Ça, c'est l'enjeu majeur. Et puis, il y a un petit enjeu caché derrière qui est quand même de protéger l'industrie européenne, puisque elle est soumise déjà à des quotas de carbone. Vous avez 10 000 sites de production européens aujourd'hui qui ont le droit d'émettre un certain volume de carbone et les quotas leur sont accordés. Donc, ce nombre de quotas, il baisse et il devient payant. Donc, il devient de plus en plus coûteux pour une entreprise d'émettre du CO2. Donc, l'idée, c'est d'éviter une distorsion de concurrence et de faire qu'il y ait une délocalisation des sites de production européens vers l'étranger. Donc on taxe aux frontières pour cela. Donc c'est positif, il faut y aller.
Alors c'est aussi une répercussion peut-être pour le consommateur, on parle quand même d'une taxe en plus.
Alors, ça aura des conséquences pour le consommateur, d'autant que le mécanisme européen lui-même va être durci, puisque il va y avoir aussi le fuel domestique et les carburants qui seront progressivement taxés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura l'Europe promet un fonds pour compenser les effets sociaux, et le deuxième enjeu, c'est que cette facture énergétique et cette facture carbone, on va la payer de toute façon à un moment, sur le changement climatique bien sûr, mais aussi économiquement, si on se sort pas de la dépendance au pétrole, on repousse le mur un peu plus loin, mais on se le prendra un jour. Et donc l'enjeu, c'est de sortir dès maintenant et d'anticiper. Donc il faut le faire.
Béatrice, sur ce chantier de la taxe carbone et sur son acceptabilité.
Alors, son acceptabilité par la population, c'est toujours cette espèce de schizophrénie des gens. C'est-à-dire, quand vous leur dites ils font consommer local parce que ça vient de très loin, ça a été fabriqué dans des conditions soit sociales, soit environnementales pas bonnes, ils vont dire, ah oui, bien sûr. Et puis, quand il faut le faire dans le quotidien, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Deux choses. Faut bien voir que cette taxe carbone, d'ailleurs, le mot de taxe est pas tout à fait juste, parce que ça n'est pas une taxe, c'est une, encore en langage bruxellois, c'est une compensation carbone aux frontières. C'est important en fait de noter ça, parce que si on considère que ça n'est pas une taxe, c'est pas une question fiscale, ça veut dire que ce mécanisme n'est pas peut être mis en place sans la majorité absolue au Conseil. Ça c'est nécessaire pour les questions...
Ça la rend plus facile à être adoptée, peut-être la négociation dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne.
Par ailleurs, c'est pas tous les produits qui sont taxés. C'est effectivement, il va y avoir l'énergie, mais c'est l'acier, les engrais, etc. C'est pas tout. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que pourquoi elle est absolument nécessaire, c'est qu'il faut quand même relier cette histoire avec tout le débat qui a lieu aujourd'hui en Europe sur les ressources propres. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Vous en avez parlé. Il y a eu ce grand plan de relance européen, vous rappelez les 750 milliards, et donc les Européens se sont engagés à rembourser cette.
Donc il faut trouver des financements.
Et cette compensation carbone, cette recette carbone, eh bien, rentre dans le paquet des financements qui devront servir à rembourser cette dette. C'est pour ça qu'elle est absolument nécessaire à être mise en place, avec la taxe sur les géants aussi du numérique.
Il y aura aussi un chapitre social dans cette présidence française de l'Union européenne, avec l'harmonisation des salaires minimums en Europe, du moins c'est un objectif. On parle bien d'harmonisation. Quel est le principe, Vincent? Y a-t-il aujourd'hui de grosses grosses différences entre les différents pays d'Europe.
Alors le principe, c'est évidemment pas d'avoir un SMIC européen qui serait, je sais pas, à 1300 euros et que tout le monde respecterait, puisque il faut rappeler quand même que le SMIC en Bulgarie, il est à 332 euros brut par mois et il est à 2200 euros au Luxembourg. Donc on voit qu'il y a un ratio de, un rapport de 1 à 7 entre les deux extrêmes. Mais l'enjeu est majeur parce que il y a de plus en plus de travailleurs pauvres en Europe, c'est-à-dire des gens qui ont un emploi mais qui ne sortent pas de la pauvreté. Ils étaient 8,1% en 2005, ils sont 9,6% en 2018. Donc, l'idée c'est la Commission européenne, il y a un projet de directive dans lequel elle dit aux États, il faudrait arriver, et c'est bien il faudrait malheureusement et pas il faudra, il faudrait arriver à un salaire minimum qui soit au seuil de 60% du salaire médian dans le pays et 50% du salaire moyen.
Car Béatrice, il y a des différences d'approche assez énormes à l'intérieur de l'Europe.
Tout à fait, sur cette question du salaire minimum, il faut voir qu'il y a des pays qui n'en ont pas. Et alors, quand on regarde des pays qui n'en ont pas, on est assez surpris de voir que c'est des pays, par exemple la Finlande, le Danemark, la Suède ou l'Italie, où là, on considère, d'ailleurs ces pays-là ne sont pas très très contents en fait que cette démarche européenne sur le salaire minimum soit mise en place, parce qu'ils considèrent que l'État n'a rien à voir à faire là-dedans. Eux, ils ont une négociation du travail, des accords de branche en fait, et une négociation avec les syndicats qui est extrêmement dynamique. Alors, ce qui est marrant de regarder quand on regarde ce salaire minimum qui serait 60% du salaire médian, c'est que c'est le cas français. Et quand vous regardez pays par pays, en fait, le rapport entre le salaire minimum et le salaire médian, eh bien, un des seuls, en fait, même le seul qui est à 60%, c'est la France.
Merci beaucoup à vous deux, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express, Vincent Grimaud, journaliste Alternative Économique. Il est temps de partir vers Moscou, voisin pas toujours très commode de l'Union européenne. On va parler gaz.
Здравствуйте на телеканале Россия Вести в студии Денис Полунчуков и главное к этому часу.
Y aura-t-il une guerre du gaz en 2022? Malgré une récente accalmie liée à un début d'hiver doux, les cours mondiaux devraient repartir à la hausse l'an prochain. Et l'enjeu est de taille pour nous qui dépendons en partie du gaz russe pour nous chauffer. Bonjour Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou.
Bonjour.
On commence à s'alarmer un peu partout en Europe de l'approvisionnement qui aurait déjà commencé à baisser. Qu'en est-il? Les livraisons de gaz russe ont-elles vraiment diminué ces dernières semaines?
Alors, officiellement non, hein. Vladimir Poutine a répondu personnellement aux accusations européennes qui prêtent à la Russie la volonté de freiner ses livraisons. Cette thèse voudrait que Moscou exerce ainsi une pression sur ses partenaires dans deux dossiers importants, le soutien à l'Ukraine et l'homologation du gazoduc Nord Stream 2, hein, qui relie la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. La procédure a été interrompue à l'automne pour des questions purement juridiques. Et puis en parallèle, eh bien, le président russe a fait savoir que Gazprom avait livré les quantités de gaz commandées par les pays européens et que le géant gazier russe continuerait de le faire, mais qu'à l'heure actuelle, eh bien, il n'y avait pas de nouvelles commandes.
Cela veut dire qu'actuellement, la Russie ne livre plus de gaz à l'Europe ?
Alors, du gaz russe continue d'arriver, hein, mais par les gazoducs Nord Stream 1 et Turk Stream depuis la Turquie. Les interrogations concernent le gazoduc Yamal, qui relie, lui, la Sibérie et l'Allemagne, en passant par la Biélorussie et la Pologne.
C'est ce qui pourrait expliquer que les entreprises allemandes livrent actuellement du gaz à la Pologne via un tronçon du gazoduc Yamal ?
Alors oui, son opérateur a confirmé des livraisons de gaz à destination de Varsovie. De son côté, Gazprom a reproché à Berlin de puiser dans ses réserves pour approvisionner son voisin polonais, alors que Moscou a les possibilités de livrer davantage de gaz. Vladimir Poutine annonçait même mercredi que Nord Stream 2 avait été rempli et qu'il pouvait être mis en service immédiatement. Une façon de signifier aux Européens que leur problème d'approvisionnement en gaz pouvait être rapidement résolu, pour autant que l'Allemagne valide l'homologation du gazoduc.
Merci beaucoup Jean-Didier Revoin, correspondant de France Inter à Moscou. Il est 9h31 sur France Inter. On n'arrête pas l'écho. Dans une dizaine de minutes, notre invité sera Xavier Jaravel, prix du meilleur jeune économiste 2021. Nous parlerons innovation et secteur porteur pour l'économie de demain. Voici justement le reportage d'Anaël Verzo sur un exemple parmi d'autres à même de transformer notamment la logistique et l'industrie. Ça a d'ailleurs largement commencé, on va l'entendre, l'intelligence artificielle. Elle fait déjà partie de notre quotidien. Nous partons avec Anaël dans l'Essonne, dans un entrepôt géré en grande partie par des robots.
Alors là, on se trouve à l'intérieur d'un entrepôt Carrefour en région parisienne. Je peux vous laisser vous présenter ?
Ça marche. Du coup, Elias Méchery, responsable de l'entrepôt du Plessis-Pâté. Sur une station de réception, on a 6 robots qui vont travailler pour cette station. Donc là, on les voit s'activer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monter en hauteur pour attraper des bacs vides. les poser sur leur tête et puis ensuite revenir sur leur roue pour présenter le bac vide jusqu'en station de réception.
Donc il y a des rails et puis des petits robots. Voilà, donc le robot, c'est un petit véhicule blanc de la taille exactement du bac sur des roulettes. Hop, il arrive.
Tout ce qu'on va venir faire ici, c'est prendre un article. Là, par exemple, il y a ce bac ici. On va scanner le code barre de l'article. Ensuite, on va venir mettre
l'ensemble des boîtes de spaghettis.
Du coup, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 12. On va venir dire au système qu'on en a mis 12 à l'intérieur, du coup.
Là, il écrit la quantité de boîtes de spaghettis sur l'ordinateur et le robot repart.
Pour aller stocker ce bac, donc dans l'installation, il peut le stocker sur différents niveaux. En gros, la totalité de la hauteur d'installation fait 10 mètres.
Et alors, il y a combien de salariés qui travaillent ici?
Entre 200 et 250 salariés qui travaillent sur le Plessis-Pâté.
Il y en a combien de robots?
Alors 150 dans l'installation sec et 75 dans l'installation frais.
Donc ça fait
225.
Nous sommes le lundi 13 décembre, il est 7h du matin, il fait encore nuit. À l'extérieur, la zone industrielle est déserte, mais dans l'entrepôt, une dizaine d'ouvriers sont déjà au travail, disposant mécaniquement des produits dans des bacs conduits par des robots Skypod qui ont été conçus par Exotech. Exotech, c'est une entreprise française qui a été créée en 2015. Elle compte aujourd'hui 300 salariés et a déjà installé ses systèmes de robots dits intelligents dans 8 pays. Gilles Bollard est le directeur des ventes. Il est venu spécialement de Lille ce matin. On les suit avec Anaël Verzo, continuer la visite de l'entrepôt où collaborent robots et salariés.
Bonjour. Voilà des salariés qui arrivent. Bonjour. Bonjour. On se croirait un peu dans une... C'est comme une petite gare avec des robots comme ça qui circulent. Ou comme un... Vous savez, ça me fait penser à un circuit de voitures auto-tamponneuses. Non, sauf qu'ils ne se rendent pas dedans, mais c'est des petits robots qui viennent...
Ils sont complètement autonomes et ils n'ont absolument aucun système de guidage, si ce n'est leur lidar pour la navigation. Mais en fait...
Il n'y a pas de rail, non.
Les robots, ils ont un laser qui leur permet de détecter leur environnement et de se positionner de manière complètement autonome. C'est-à-dire qu'il doit aller de point A à point B, point B, point C, point C, point D, et à chaque fois, il a des temps de passage à ces différents points. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'interaction entre les différents robots. Donc les robots ne savent pas qu'il y a d'autres robots qui circulent. Ils se contentent de suivre leur mission.
Leur trajectoire.
Leur trajectoire, voilà.
Et qui définit la trajectoire de chaque robot? Parce que c'est 150 robots, il faut quand même gérer.
C'est pour ça qu'on a besoin d'algo mathématique extrêmement puissant, parce que au-dessus, il y a un ordinateur avec du logiciel. Et c'est là qu'on calcule toutes les missions pour qu'elles puissent être compatibles les unes entre les autres. Et que le robot n'interfère pas avec un autre robot.
Donc la réponse qui calcule, c'est l'ordinateur.
C'est des serveurs qui sont au-dessus, tout à fait, et qui sont de notre conception également. Tout est complètement sous contrôle de l'informatique. Le système va regarder quelles sont les commandes qui sont à préparer, choisir celles qui sont les plus appropriées pour ce poste-là à ce moment-là, en fonction d'un certain nombre de critères, et va les associer à une station. Et ensuite, on va vous amener la marchandise pour que vous puissiez préparer la commande.
Et alors, sans indiscrétion, j'imagine ça coûte très cher, mais...
Je ne me permettrai pas de donner des budgets. Le coût n'est pas vraiment un point principal. Ce qu'il faut voir, c'est que nos solutions, elles permettent à la fois de rendre le travail des opérateurs beaucoup plus ergonomique, d'augmenter bien évidemment la productivité, mais aussi de gagner beaucoup de mètres carrés. Plus on se rapproche des lieux de consommation, plus les mètres carrés sont chers. Donc d'où l'intérêt d'avoir des solutions qui utilisent la hauteur, compactent les surfaces et permettent de se rapprocher des centres-villes.
Et il reste visiblement de la place dans cet entrepôt Carrefour pour continuer à répondre au développement du commerce en ligne. Mais alors, quelles sont les conséquences sur les salariés? Est-ce que des postes ont été supprimés depuis l'arrivée de ces robots? Mourad Ben Sadik est directeur des opérations e-commerce chez Carrefour.
Avant la robotisation, un préparateur de commande va marcher jusqu'à 10 km, voire plus de 10 km par jour. Là, en l'occurrence, toute cette tâche-là a été supprimée. Ensuite, dans une préparation classique de commande, on a amené à tirer le chariot, à pousser le chariot. Cette activité-là a été supprimée également. On vient également réduire significativement le port de charge. Là, vous l'avez vu autour de vous, vous avez une table élévatrice qui vient porter la charge au niveau de l'opérateur. Donc toutes ces tâches-là ou ces micro-tâches-là qui habituellement ont un impact sur les conditions de travail, ont été supprimées grâce au recours à des robots.
Du coup, vous avez gardé le même nombre de salariés ou vous avez des salariés en moins ?
Ah non, au contraire, on a augmenté le nombre de collaborateurs pour la bonne et simple raison qu'on est venu apporter à travers cette installation une réponse e-commerce à l'ensemble ou à une bonne partie de la région parisienne. Et en l'occurrence, l'activité e-commerce, elle est toute nouvelle. Donc on a repris les collaborateurs qui étaient en place, on a quasiment doublé l'effectif pour pouvoir accompagner cette croissance e-commerce.
Donc vous avez fait appel aux robots qui fonctionnent par intelligence artificielle parce qu'il y avait une demande d'achat en ligne.
Exactement. Il y a 5 raisons principales qui nous ont amené à avoir un recours à une telle installation. La première, c'est pouvoir proposer à nos clients une offre la plus large possible. Et un site comme celui-ci nous permet, à travers les 40 000 bacs que vous voyez derrière vous, de pouvoir stocker jusqu'à 15 000 références. La seconde raison, c'est pouvoir proposer une capacité de préparation qui soit la plus importante possible. Je parlais de 200 000 articles au jour. Très peu de sites aujourd'hui peuvent préparer une telle capacité de commande. Ensuite, il y a une troisième raison qu'on a partagée ensemble, c'était les conditions de travail. Et puis enfin, la qualité de service. Un site comme celui-ci, la fiabilité de la préparation, elle est supérieure à 99%, alors que dans un process plus manuel, le taux d'erreur est un peu plus élevé. Et enfin, le dernier objectif, c'est d'aller chercher une performance économique. On a effectivement un meilleur gain de productivité grâce à ces robots.
Vous les avez évalués, vous avez chiffré ou pas ?
On ne communique pas sur le sujet, mais effectivement, dès lors où on vient investir énormément sur un site comme celui-ci, on vient chercher des gains de productivité qui nous permettent d'avoir une croissance soutenable dans la durée.
Sur la question de l'emploi, il y a débat. Il y a, comme ce responsable e-commerce de chez Carrefour, ceux pour qui l'intelligence artificielle va créer de nouveaux emplois. Et il y a ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va remplacer les humains. Des études prédisent, en tout cas, que d'ici à 2030, 60% des emplois seront automatisés. Alors, quelle économie et quelle société nous prépare l'intelligence artificielle ? Paola Tubaro est directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire informatique.
Il y a des produits, l'intelligence artificielle, qui sont déjà largement en commerce. Pensons aux assistants vocaux, aux Siri, Alexa, etc. Les chatbots, tous ces genres de choses qui sont déjà largement utilisées. Et puis, il y en a qui sont plus des projets d'avenir, comme justement la voiture autonome qui semblait imminente peut-être il y a quelques années. Après, on s'est rendu compte que ce n'est pas que un problème technique, c'est beaucoup plus complexe et ça va mettre plus de temps que les enthousiasmes originaux pouvaient faire croire, parce qu'il faut penser à son insertion dans des systèmes urbains, dans des systèmes de vie, dans un contexte social qui n'est pas simple. Et puis, il y a eu un très fort investissement en production d'intelligence artificielle pour combattre les effets du Covid-19, donc reconnaissance d'imagerie médicale ou d'autres applications de santé. Et en fait, deux études récentes ont montré que globalement, ça a été un gros échec parce que tout a été fait trop vite, chacun dans son coin, sans coordination, avec des données qui se sont avérées mauvaises plus tard. Et donc, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut travailler. On commence à voir, en fait, qu'il faut un travail beaucoup plus réfléchi sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, une intelligence artificielle, pour faire quoi, pour quelle société. On veut faire quoi avec la reconnaissance faciale. Et il y a un problème potentiel de protection de la vie privée, il y a des problèmes de surveillance, évidemment, et donc vers quel type de société on veut aller. C'est une question qui commence petit à petit à se poser et qui doit devenir vraiment plus importante pour que cette recherche apporte vraiment un plus qui soit pas que industriel, mais qui soit aussi sociétal et qui donc puisse vraiment contribuer à une amélioration globale des conditions économiques et des vies sociales et individuelles.
On n'arrête pas l'intelligence artificielle. C'était un reportage d'Anaël Verzou.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Xavier Jaravel.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics et vous êtes le lauréat en titre à 31 ans du prix du meilleur jeune économiste. On avait envie de se tourner vers vous et avec vous en ce 1er janvier sur l'année qui vient et celles qui viendront. On a des plans d'investissement en France et ailleurs qui préparent les économies à l'horizon 2030. On part à la chasse aux innovations de rupture, aux applications de l'intelligence artificielle. On vient de l'entendre dans le reportage. A-t-on, selon vous, en France, un écosystème favorable pour se lancer dans de telles quêtes ?
Écoutez, merci pour votre invitation. Et effectivement, on peut saluer les efforts de long terme qui sont mis en œuvre. Il y a néanmoins un point qui semble peut-être un peu manqué, c'est la question des compétences. On part relativement peu à la chasse aux compétences. C'est-à-dire, quand on regarde l'écosystème français, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années s'agissant des start-up, au cours des 10-15 dernières années s'agissant du financement de l'innovation et des subventions publiques à l'innovation, mais beaucoup moins s'agissant des compétences qui sont requises pour innover. C'est les compétences des innovateurs eux-mêmes, mais c'est aussi plus largement les compétences des salariés qui doivent adopter ces innovations et les diffuser. C'est vrai dans tous les domaines.
C'est un domaine ultra concurrentiel, celui des compétences.
Exactement, mais ce qui est frappant vraiment, c'est que la France est un peu en déclin ou en déclassement sur ce point. On regarde différents classements, les classements pour les élèves, par exemple les classements PISA, des classements qui sont faits par l'éducation nationale. On voit qu'il y a un déclin au cours du temps, en fait, par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, de CM2 en mathématiques, on voit tous les points de la distribution des performances, c'est-à-dire le niveau moyen baisse, mais aussi...
Ça commence très tôt alors, parce que
voilà.
PISA, c'est...
Et PISA, c'est plus tard.
L'école primaire.
Voilà. On a les études les plus précises, en fait, elles viennent de l'éducation nationale, et on voit au CM1, CM2, des baisses de performances qui touchent également les meilleurs élèves, et ça, c'est un point, je pense, qu'on met assez peu en avant.
Qui nous surclasse.
Et après, il y a un déclin absolu, en fait, par rapport à nous-mêmes au cours du temps, et on est à peu près surclassé par tout le monde. C'est-à-dire qu'en mathématiques, aujourd'hui, la France, s'agissant des élèves du primaire, est avant-dernière de l'OCDE. Il n'y a que le Chili derrière. Et donc ça a bien sûr des conséquences drastiques à moyen terme. Et donc c'est très peu présent en fait dans le débat public. On parle beaucoup d'autres sujets comme la résilience de l'industrie ou les relocalisations, mais finalement ce sujet-là, des compétences, et on le voit aussi, il y a d'autres classements internationaux, par exemple les études PIAC de l'OCDE, où ça c'est pour les salariés en activité, où on est aussi très très mal classé.
Alors donc,
c'est ça le point central.
Ça rend très compliqué un autre sujet qui vous est cher, celui de l'innovation par tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ah oui, effectivement, il y a ce sujet un peu de en arrière-fond qui est l'éducation en général, et puis après il y a un autre sujet qui est l'orientation, c'est-à-dire à compétences données, on doit orienter vers les métiers d'avenir. Et donc il y a notamment les métiers de l'innovation, de la science, de l'entrepreneuriat, puis plus généralement des métiers, par exemple comme la rénovation thermique des bâtiments, qui sont essentiels dans le cadre de la transition. Et en fait là, ce qu'on a compris récemment, c'est qu'il y a vraiment un enjeu macroéconomique à cette orientation des élèves vers ces métiers d'avenir. Avec le Conseil d'analyse économique, on a une étude là qui va sortir d'ici quelques semaines. Et pour vous donner un chiffre, on pense que en améliorant l'orientation, on peut augmenter la croissance économique de 0,2 points. Ça prend de 5 à 10 ans, parce qu'évidemment, il faut que les élèves arrivent dans le marché du travail. Mais c'est un effet, en fait, assez rapide, parce que c'est des questions un peu d'orientation qui se jouent au lycée, mais aussi au collège. Et il y a toute une série de leviers qui peuvent être utilisés, dont certains ont été testés très concrètement par des équipes de recherche qui ont fait une analyse, vous voyez, causale, un peu comme les analyses d'Esther Duflo. C'est, par exemple, des dispositifs pour du mentorat, des dispositifs pour l'information sur telle ou telle carrière. Un exemple, c'est une étude de Julien Grenet, Thomas Breda et d'autres à l'École des communes de Paris, où il montre que des interventions très très simples, juste d'informations sur les carrières, augmentent le nombre de jeunes filles qui se tournent vers les classes préparatoires scientifiques de 50%. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de vivier de talent qui n'est pas exploité, si on peut dire. Et donc il y a un enjeu d'égalité des chances, mais il y a aussi un enjeu de performance économique. Et d'ailleurs, on rappelle trop peu souvent que du point de vue de l'égalité des chances, en fait, la France est très mal classée. On est plutôt bien classé sur les inégalités après redistribution. Ouais. On est très très mal classé. On est au niveau des États-Unis ou de l'Angleterre sur l'égalité des chances. Et l'éducation, c'est vraiment ce vecteur qui permet de s'améliorer sur ce plan-là, mais aussi un enjeu économique de croissance.
Et en quoi, selon vous, l'innovation pour tous passe justement par l'innovation par tous ?
Alors il y a aussi effectivement une question de savoir quels produits vont être mis sur le marché par les innovateurs. Et donc là, il y a des études qui montrent aussi qu'en fonction des expériences de chacun, en fait, les entrepreneurs vont se tourner vers différents marchés. C'est-à-dire que souvent, ils vont, par exemple...
Selon des femmes, ses origines, voilà. Son background, sa culture, voilà. Ses affinités.
Voilà, et ensuite, en fait, mieux comprendre les besoins des consommateurs qui, entre guillemets, font partie de son réseau et du coup, va pouvoir identifier des opportunités et créer, du coup, de la valeur qui se tourne vers ces consommateurs-là.
Alors, Xavier Jarabel, vous proposez une nouvelle approche de l'innovation, alors qu'en France, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent parfois depuis longtemps, qui sont censés l'encourager, cette innovation. Vous avez notamment travaillé sur le crédit impôt recherche. Qu'en pense le jeune économiste que vous êtes de tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour encourager l'innovation?
Bon, on peut dire, voilà, à grand trait, que ce sur quoi on a mis l'accent en France, c'est le financement de l'innovation. C'est-à-dire, on veut subventionner l'innovation. Et souvent, c'était parce qu'on avait fait le constat qu'on avait un système fiscal qui était par ailleurs assez punitif et que donc il fallait le compenser. Et donc le crédit impôt recherche, c'était ça l'idée. C'est-à-dire qu'on avait des taux d'impôt sur les sociétés élevés. Maintenant, ils ont baissé. Et donc historiquement, la raison, c'était de compenser ce taux d'impôt sur les sociétés élevés ou les impôts de production élevés, par un dispositif de crédit d'impôt recherche très généreux. Et donc, juste pour rappeler quelques chiffres, c'est 7 milliards d'euros, le chiffre d'impôt recherche, c'est donc deux fois le budget du CNRS. Et récemment, il y a toute une série d'études et d'évolutions du système fiscal français qui peuvent amener à remettre en cause ce dispositif. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, l'IS a baissé et continue de baisser en France, c'est de 33% à 25%. Par ailleurs, d'autres pays, eux, augmentent l'IS, notamment le Royaume-Uni, c'est aussi en discussion aux États-Unis. Donc ce différentiel de compétitivité qui justifiait le crédit impôt recherche de base, eh bien en fait, est réduit naturellement. Et par ailleurs, des études montrent qu'il n'y aurait pas d'effet d'entraînement du crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est ce qu'on regarde en ce moment au Conseil d'analyse économique, ça va paraître d'ici quelques semaines.
Oui.
Ça a aussi été regardé par l'Institut des politiques publiques, par France Stratégie. Donc tout le monde arrive à cette conclusion.
C'est-à-dire c'est devenu insuffisant alors de se préoccuper seulement du financement?
Bien sûr que c'est... En fait, le vrai enjeu, c'est les compétences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment de compétences, vous pouvez bien subventionner l'innovation. Mais il faut vous trouver les hommes et les femmes qui peuvent contribuer à l'innovation. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de redimensionner le crédit d'impôt recherche, soit pour subventionner d'autres dispositifs, par exemple cette politique d'innovation par tous qui vise à orienter les talents vers ces carrières de la science. Alors, rappelons qu'il y a vraiment une crise des vocations scientifiques en France, avec une baisse du nombre de doctorants en sciences depuis 2009. Et donc, on peut redéployer le dispositif. Et ce sont, voyez, parce que souvent le contre-argument pour une réforme du crédit d'impôt recherche, c'est de dire il faut de la stabilité fiscale. Si on change les choses, il y a plus de visibilité.
Si les règles changent, on n'arrive pas à innover.
Mais là, les règles n'ont pas changé depuis 2008. Et en réalité, on a des évaluations précises, donc on changerait les choses, mais pour des raisons tout à fait fondées. Et d'ailleurs, on les changerait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on redimensionnerait le dispositif. À nouveau, pour vous donner quelques chiffres, en Allemagne, le crédit d'impôt recherche s'est limité à 4 millions d'euros. Nous, on n'a pas de seuil en fait supérieur. On a jusqu'à 100 millions d'euros, une subvention à 30%, 100 millions, et après, au-delà, on est subventionné à 5%. Et donc, on pourrait, à minima, réduire ce seuil supérieur et redéployer vers les plus petites entreprises pour lesquelles il y a un effet avéré.
Qui innove et qui est le mieux placé pour innover en France? Est-ce que ça passe aujourd'hui plus par les grandes entreprises, selon vous, ou par les petites structures plus agiles, on le dit souvent, type start-up ou incubateur, les deux combinés?
Non, tout à fait, c'est les deux combinés. D'ailleurs, ça, c'est une analyse qu'on fait avec le Conseil d'analyse économique et qui, donc, on vous donnera les résultats dans quelques semaines. Mais globalement, on voit qu'en France, c'est les deux combinés. Et quand on compare, par exemple, avec les États-Unis, un élément qui est frappant, c'est le rôle de la taille de marché. C'est-à-dire que, en France, en fait, on a quand même, avec le marché unique européen, on pourrait avoir une taille de marché en principe très, très élevée. Mais en fait, on voit qu'il y a globalement peu de passage à l'échelle. C'est beaucoup plus lent que, par exemple, aux États-Unis et que donc le principal frein, en fait, c'est probablement cela, c'est-à-dire passer trop lentement à l'échelle, et c'est en partie du fait qu'on n'a pas, comme les États-Unis, accès directement à un marché très très vaste.
Le secteur industriel est particulièrement malmené en ce moment, déjà par les pénuries d'approvisionnement, la hausse des coûts de l'énergie. L'innovation, c'est une condition peut-être à une certaine forme de résilience, qu'en pensez-vous?
Oui, il y a tout ce débat sur la résilience de l'industrie, et l'innovation, ça permet d'être résilient au sens où s'il y a un choc, on va pouvoir s'adapter, rebondir en innovant pour résoudre les problèmes auxquels on fait face. Mais sur ce point, il me semble que ce qui est important, c'est de bien s'accorder sur le problème auquel on fait face et son ampleur. C'est-à-dire qu'on entend un peu tout et son contraire dans le débat public. Il y a une vision qui est de dire que on est extrêmement dépendant et que donc il faut se retirer et changer le système, ne plus être inséré dans la mondialisation. Et puis une autre vision qui est de dire qu'en fait on fait surtout du commerce avec d'autres pays européens et que donc il n'y a pas vraiment de sujet. Donc en réalité, quand on regarde les données les plus fines, c'est une étude avec le Conseil d'analyse économique qu'on a fait en avril dernier, la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a 4% des importations pour lesquelles on est en situation de dépendance. Et donc c'est notre sens sur cela que notre effort d'innovation devrait se porter.
Alex Xavier Jaravel, enfin un peu de prospective sur 2022. Qu'attendez-vous en termes économiques du débat présidentiel qui va arriver chez nous en France?
Je pense que je le disais tout à l'heure, que le débat présidentiel met au cœur en fait de la question économique l'enjeu de l'éducation. Bien sûr, c'est un enjeu au-delà de l'économie, peut-être même surtout au-delà de l'économie. C'est un enjeu démocratique, un enjeu de citoyenneté, un enjeu d'égalité des chances.
C'est la première brique du débat sur l'innovation.
Et c'est aussi la première brique du débat sur l'innovation. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de comprendre, on est en train de changer de modèle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la période actuelle, il y a à court terme une pression pour faire mieux sur ce plan-là, parce que les entreprises disent toutes que leur enjeu principal, c'est les compétences, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Donc ça peut conduire à une prise de conscience en plus des résultats aux classements internationaux dans lesquels on a été plutôt vraiment en demi-teinte et où ça ne cesse de s'aggraver.
Il y a aussi les enjeux de pouvoir d'achat et d'inflation qui semblent prendre beaucoup d'ampleur depuis plusieurs semaines. Et ça va être le sujet de 2022 aussi.
Exactement. Et sur ce point-là, en fait, c'est la Banque centrale, à mon sens, qui a les clés. On voit que les banques centrales de par le monde sont en train de remonter les taux, donc montrent qu'elles veulent
on y va,
être un rempart
aussi,
face à l'inflation. Je pense qu'il y aura globalement une coordination. Et que les problèmes qu'on a eus jusqu'ici, en fait, c'était des chocs assez circonscrits, c'était notamment les prix de l'énergie. Mais en fait, le vrai risque d'inflation, il a, à mon sens, trait à l'épargne accumulée pendant la crise. Et donc, on va voir à quelle vitesse cette épargne est dépensée dans l'économie. Et donc, en fait, la Banque centrale, son rôle, c'est de réguler un peu cette vitesse de manière à ce qu'il n'y ait pas de surchauffe de l'économie. Et donc, on est dans cette phase, mais il me semble que les banques centrales envoient les bons signaux et sauront trouver le bon équilibre.
Allez, on prend les paris, on se mouille un peu. Vous pensez qu'il va y avoir un relèvement des taux directeur de la BCE, là, dans les semaines ou les mois qui viennent?
Je pense pas. Je pense que les premières annonces, ce sera, en fait, pour mettre fin ou réduire, plutôt, les programmes de rachat des dettes publiques. Donc, ce sera, en fait, la politique qu'on appelle non conventionnelle. On va d'abord redimensionner cette politique-là, et puis ensuite, plus tard, peut-être revenir vers les taux d'intérêt. Mais je pense qu'on ne passera pas directement à un relèvement des taux d'intérêt.
2022, retour à une forme de discipline budgétaire, selon vous?
Ça m'étonnerait beaucoup, peut-être dans la rhétorique, mais si vous voulez, quand on regarde les programmes des uns et des autres, on s'étonne quand même que le seul poste de dépense à réduire soit les retraites, et surtout avec un chiffrage qui est assez abracadabrantesque. On entend ici ou là 20 milliards, 30 milliards cumulatifs d'économies sur 5 ans, alors que quand on regarde les chiffres, les études des institutions qui font référence, c'est au maximum 10 milliards sur 5 ans. Et donc il me semble que effectivement il faut faire des efforts en la matière, mais je m'inquiète que le débat en fait soit peut-être plus dans la rhétorique que dans l'action.
Merci beaucoup Xavier Jaravel, professeur d'économie à la London School of Economics et prix du meilleur jeune économiste en 2021. Merci à vous.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Sandrine Foulon, Ma vie au boulot. On commence l'année avec un auditeur fidèle, Alain, qui vous écrit souvent. Sandrine, retraité actif depuis 3 ans, il travaille comme animateur pendant la cantine et la récréation. L'école lui propose le même poste en tant que vacataire de septembre à juillet. Y a-t-il une différence de droit avec un emploi de contractuel, vous demande-t-il?
Eh bien, pour faire court, Alain, vacataire, c'est beaucoup moins bien qu'agent contractuel. La différence se joue sur la durée des missions. Il n'y a pas de définition légale de l'agent vacataire. La jurisprudence nous dit qu'il est recruté pour accomplir une tâche précise, ponctuel et limité. Il est payé, comme son nom l'indique, à la vacation, c'est-à-dire à la tâche. L'agent contractuel, lui, assure un besoin permanent de l'administration. Alors vous aurez raison, Alain, de dire que ce que vous faites toute l'année, 2 heures par jour, c'est un emploi à temps partiel, mais c'est un emploi tout de même. Vous remplissez un vrai besoin. Le problème est que l'État, qui n'est pas toujours le meilleur employeur, raffole des vacataires. C'est plus rentable pour lui, beaucoup moins pour vous. Contrairement aux agents contractuels, qui ont eux-mêmes moins davantage que les fonctionnaires titulaires, un vacataire ne perçoit pas les mêmes droits en matière de congés, de formation, d'indemnité de fin de contrat ou de résidence. Il ne touche pas de traitement indiciaire. Ce sont les juges qui requalifient ces contrats de vacataires, parfois abusifs, en contrats de contractuels. L'an passé, la Cour administrative d'appel de Douai a par exemple jugé qu'une aide à domicile employée par une collectivité remplissait certes des missions, mais qui correspondait à un besoin permanent.
Et voilà, c'est le premier de l'an. Sandrine, vous êtes en train de décourager Alain qui pourrait être tranquille à la retraite.
C'est vrai Alain, d'autant que vous êtes beaucoup accumulé emploi et retraite ou à retarder l'acquis pour ne pas ouvrir tout de suite vos droits à la retraite. Il y a bien sûr l'intérêt du boulot, le fait de se sentir en pleine forme, mais dans la majorité des cas, c'est l'impératif financier qui domine. Le ministère de la Solidarité s'est penché sur les motivations de ces retardataires. Et il n'y a pas photo, la volonté d'augmenter le montant de sa pension, de garder encore un peu son salaire et de ne pas subir de décote arrive en tête. Si on doit travailler plus longtemps, autant le faire dans de bonnes conditions. On peut raisonnablement parier que l'âge de départ en retraite va beaucoup, beaucoup nous occuper en cette année 2022 qui s'ouvre. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une excellente année à Alain, à tous nos auditeurs, continuez à nous écrire, à vous Fabien qui êtes bien loin de la retraite, et bien sûr à toute l'équipe dont n'arrête pas l'écho.
Merci Sandrine pour vos bons voeux, et oui, la retraite, il faudra sans doute qu'on y consacre d'autres émissions en 2022, on peut prendre le pari. C'est la fin de votre premier magazine écho de l'année. La semaine prochaine, retour d'Alexandra Ben Saïd à ce micro. Après le journal de 10h, ce sera On aura tout vu, l'émission cinéma de Christine Masson et Laurent Delmas. Un début d'année en chanson au programme avec Jeanne Chérel. Puis des émissions ce 1er janvier spécial Nouvel An sur France Inter. Un jeu des 1000 euros version XL d'une heure à midi. Et la librairie francophone à 14h, Emmanuel Guérade, jour de l'an à Paris, avec pour invité le photographe franco-iranien Reza.